SBS Radio.
Un député australien estime que l'Australie dépense suffisamment pour sa défense. Fête nationale en France sous le signe de la fraternité d'armes et sécurité renforcée à travers le pays. Et fin de la visite de Donald Trump en Grande-Bretagne, visite où il a soufflé le chaud et le froid. Selon un député libéral australien, Trent Zimmerman, eh bien, l'Australie remplit ses obligations financières en matière de défense. Ces déclarations tombent au moment où le président Donald Trump fustige ses alliés européens qui, selon lui, ne payent pas assez pour leur défense commune. L'ancien premier ministre australien Tony Abbott est du même avis que Donald Trump et estime que l'Australie devrait consacrer plus de 2% de son PIB à la défense. Mais son collègue, le député Zimmerman, a déclaré à la ABC que les USA vont défendre l'Australie en cas de besoin, mais l'Australie doit être préparée à se défendre elle-même aussi.
Well, I actually thought Tony Abbott's speech was quite nuanced and surprising in some ways. He was actually saying that Australia needs to be prepared in an environment where we have a president who is placing less value than, on traditional alliances than some of his predecessors, that we may need to look at increasing our own self-reliance. My own view is that the relationship with the United States is very deep and enduring, and it covers the entire administration.
Et la docteure June Oscar, commissaire à la justice sociale, a été nommée aujourd'hui personne de l'année 2018 à l'occasion de la semaine de Nidderquick 2018. Il faut rappeler que pendant la semaine dite Nidderquick, on célèbre la culture et les progrès réalisés par les communautés autochtones d'Australie. La docteure Oscar a été récompensée pour ses efforts sans relâche en faveur des droits des peuples Bunuba et de la préservation de leur langue maternelle. Dans son discours d'acceptation du prix, Madame Oscar a déclaré qu'elle va continuer le combat en faveur des femmes aborigènes.
I hear our women's voices. You are here. You are not silent. You are not invisible. Our voices are rising loud and clear.
Patricia Anderson, une autre militante des droits de l'homme de longue date, ainsi que le rappeur Briggs, sont les deux autres récipiendaires de prix pour leurs efforts en faveur des communautés aborigènes. Un député travailliste australien se dit inquiet des tensions commerciales récurrentes entre les États-Unis et la Chine. Ce député a exprimé ses craintes après la surenchère intervenue cette semaine lorsque le président Donald Trump avait décidé d'imposer un taux de 10% de plus à des marchandises importées de Chine d'une valeur de 270 milliards de dollars. Jason Clare, le porte-parole de l'opposition travailliste en matière commerciale, a exprimé ses craintes au micro de nos confrères de la ABC.
The Yanks have put tariffs on Chinese goods and the Chinese have retaliated. If that continues and there's a tit-for-tat increase in tariffs, then potentially for Australia it means our dollar drops, we export less to countries like China, and that could mean that jobs are under threat here at home.
Monsieur Jason Clare a ajouté qu'il est dans l'intérêt de tous de s'assurer que la situation ne s'embrase sous forme d'une guerre commerciale tous azimuts. En France, le traditionnel défilé du 14 juillet sera placé cette année sous le signe de la fraternité d'armes qui rendra hommage à l'engagement des soldats. Un hommage sera rendu aux différentes forces de sécurité engagées pour aider la population, surtout après le passage du cyclone Irma sur les Antilles l'an dernier. Les troupes japonaises et singapouriennes seront également à l'honneur et 7 représentants des forces japonaises d'autodéfense ainsi que 7 soldats singapouriens ouvriront la parade militaire sur les Champs-Élysées. Écoutons l'instructeur pilote singapourien Nicolas Tong qui sera à la tête du contingent singapourien.
I'm extremely proud to represent Singapore in this event.
Je suis très fier de représenter Singapour pour cet événement, d'autant plus que c'est la première fois que Singapour est invité à participer au défilé. Personnellement, je suis basé à Cazaux, dans le sud de la France. Je suis instructeur là-bas depuis presque 3 ans, et c'est une histoire fantastique entre nos deux pays, qui dure depuis maintenant 20 ans. Au départ, on avait choisi de venir à Cazaux parce que nous n'avions qu'un espace aérien limité au-dessus de Singapour. Donc ce qu'on fait en France aujourd'hui, c'est le perfectionnement de nos pilotes de chasse. Et en réalité, une bonne partie de nos équipements vient de France, comme les Airbus A330 que nous avons achetés récemment. Et donc, d'autres partenariats sont à prévoir avec la France dans le futur.
So I foresee many great interactions between our two countries in the future.
Et la fête nationale sera placée sous haute sécurité. Il faut rappeler que 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France pendant les prochaines 48 heures, un 14 juillet. Donc, il y aura aussi un match de l'équipe de France et potentielle victoire des Bleus. C'est ce qu'anticipe en tout cas le ministre de l'Intérieur et qui prévoit donc des rassemblements monstres en France. De nombreux Français seront donc dans les rues dans un contexte de menace terroriste. Il faut absolument assurer leur sécurité. Et Donald Trump a achevé hier sa visite officielle au Royaume-Uni sur fond de manifestations contre sa politique. Le président américain a rencontré Theresa May en début d'après-midi et l'entrevue s'est déroulée après une violente attaque du président américain contre la première ministre britannique. À l'issue de la rencontre, le ton du président américain était l'opposé de ses déclarations d'avant la rencontre. Béatrice Levillier de RFI revient sur cette visite.
Dans les colonnes du Sun, le président américain expliquait que les États-Unis ne pourraient conclure d'accord commercial avec la Grande-Bretagne si Londres s'en tenait au livre blanc sur le Brexit de Theresa May, qui veut maintenir des liens commerciaux étroits avec l'Union européenne. Theresa May n'avait pas besoin de ça après une semaine agitée et des démissions en cascade au sein de son gouvernement. Donald Trump allait plus loin encore en déclarant que Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères, démissionnaire, ferait un excellent Premier ministre. Quelques heures plus tard, à Chequers, la résidence de campagne de Theresa May, les deux dirigeants se sont rabibochés. Theresa May rappelant que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont non seulement les alliés les plus proches, mais aussi les amis les plus sincères. Pendant ce temps, à Londres et dans plusieurs villes, des dizaines de milliers de manifestants protestaient contre la venue du président américain avec un ballon gonflable à l'effigie d'un Donald Trump en couche-culotte. Les manifestants faisant preuve d'un humour grinçant avec des pancartes demandant de le donner à manger au corgi, les chiens courent sur pattes de la reine Elisabeth qui le recevait autour d'une tasse de thé au château de Windsor.
Et hier, le ministère américain de la Justice a annoncé l'inculpation des 12 agents russes pour espionnage. Ils sont accusés d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate durant la campagne présidentielle de 2016. Cette annonce intervient à 3 jours de la rencontre prévue à Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump, une rencontre désormais sous pression. Détail de cette inculpation et ses retombées avec Eric Desalves pour RFI.
Les 12 officiels inculpés pour conspiration contre les États-Unis sont tous membres du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Le procureur Robert Mueller les accuse d'avoir piraté tout au long de la campagne américaine de 2016 les ordinateurs du Parti démocrate pour y récupérer des documents sensibles. Par l'intermédiaire d'un faux site internet, les 12 espions auraient ensuite organisé la diffusion de ces documents pour influencer l'élection vers une organisation que le ministère de la Justice américain n'a pas nommée. Mais selon toute vraisemblance, il s'agirait du site WikiLeaks qui avait diffusé en 2016 des milliers de courriels démocrates piratés compromettant pour Hillary Clinton. Même si le numéro 2 du ministère de la Justice dément tout lien avec le calendrier, cette annonce intervient à 3 jours de la rencontre prévue à Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump, désormais sous pression. Depuis Londres, le président américain a promis de poser fermement la question de l'ingérence à son homologue russe. De son côté, le chef de l'opposition démocrate au Sénat a immédiatement demandé l'annulation de cette rencontre, et ce, jusqu'à ce que la Russie prenne des mesures visibles et transparentes, dit Chuck Schumer, pour prouver qu'elle ne tentera pas de nouvelles ingérences dans les prochaines élections américaines.
Et au Cameroun, le président Paul Biya a choisi Twitter pour annoncer sa candidature au présidentiel du 7 octobre 2018. À 85 ans, dont 36 au pouvoir, le président sortant est donc en lice pour un 7e mandat. Polycarpe Somba de RFI revient sur cette candidature sans surprise.
C'est via son compte Twitter officiel que l'annonce est tombée. À 10h tapante hors du Cameroun, Paul Biya écrit « Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. » Fin de citation.
43 caractères pour rompre le silence sur une candidature qui était pour nombre d'observateurs plus qu'évidente. Une heure à peine après cette annonce, 194 retweets ont été enregistrés sur ce compte qui totalise 328 000 abonnés. Sur un autre réseau social, Facebook en l'occurrence, le débat s'est aussitôt emballé, les Camerounais à peine surpris par la confirmation de cette candidature, s'en donnant un cœur joie pour juger de son opportunité ou non. Désormais candidat à sa propre succession, Paul Biya, 85 ans, dont 36 déjà passés à la magistrature suprême, vient en tout cas de balayer la dernière grosse inconnue sur ce rendez-vous électoral après le décret présidentiel fixant le jour du vote au 7 octobre prochain.
Et retour en Australie où Bill Shorten, le chef de l'opposition, a écrit au Premier ministre Malcolm Turnbull pour lui demander d'accorder un meilleur soutien aux personnes atteintes de diabète. Le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir des appareils de contrôle de glycémie gratuitement pour les moins de 21 ans. Mais l'effort du gouvernement est de loin inférieur à la promesse électorale des travaillistes. On se souvient que lors de la campagne électorale de 2016, les travaillistes avaient promis d'élargir la gratuité de ces appareils à toutes les personnes souffrant de diabète sans distinction. Et des niveaux extrêmes, il faut le rappeler, d'hyperglycémie peuvent être mortels. Et les appareils de contrôle réduisent les risques et en même temps contribuent à baisser la facture médicale. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 74 centimes de dollars US et 63 centimes d'euros. Et la météo à travers les principales villes du pays pour ce samedi, Perth 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 14 degrés, Hobart 11 degrés, Canberra 12 degrés, Wollongong 16 degrés, Sydney 17 degrés, Newcastle 17 degrés également, Brisbane 21 degrés, Cairns 27 degrés et Darwin 31 degrés. C'est tout pour l'actualité, un rappel de nos principaux titres avant de passer au magazine des sports. Un député travailliste australien estime que l'Australie dépense suffisamment pour sa défense. Et fête nationale en France sous les signes de la fraternité d'armes et une sécurité renforcée à travers le pays. Et fin de la visite officielle de Donald Trump en Grande-Bretagne, visite où il a soufflé le chaud et le froid.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.